Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de commencer la semaine avec vous. Peut-être la dernière semaine de confinement total avec vous et Culture Média. Au menu, médias et culture au sens large, tous les médias et toutes les formes de culture. Aujourd'hui, de la cuisine, des soufflés et de la musique en espérant que vous soyez soufflés. C'est la petite touche d'humour. Il y aura le journal des médias de Cyril Lacarrière et le journal de la culture d'Hélène Manarino. Notre infomédia avec un nouveau terme et surtout une nouvelle tendance apparue pendant cette crise du coronavirus, l'ultra-crépidarianisme. Ultra-crépidarianisme, c'est quoi? Eh bien, c'est cette tendance qu'ont certains experts à pérorer au sujet d'une matière dont ils ne savent à peu près rien, au point même que le Premier ministre a fustigé, je cite, le nombre de commentateurs ayant une vision parfaitement claire de ce qu'il aurait fallu faire à chaque instant. Fermez les guillemets, ils nous écoutent, ils se reconnaîtront. Nos invités ont ensuite le reporter Martin Veil pour une enquête inédite, Covid-19, la fin de l'American Dream. Et ce qu'il y a de passionnant dans cette enquête, c'est qu'il a retrouvé les mêmes témoins, un milliardaire, une dentiste, un cow-boy de rodéo, avant et après le confinement. Enfin, la dessinatrice et cinéaste Marjane Satrapi pour la sortie en VOD de son film Radioactive sur la vie de Marie Curie. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Heureux de vous retrouver, place au Journal des Médias. Cyril, qu'avez-vous au menu ce matin ?
Au programme du jour, les médias français se rebellent, une infirmière qui nous embarque dans son quotidien, une histoire d'amour et d'affaires qui repart pour un tour et la Star Academy prête à fêter ses 20 ans.
Mais on commence comme chaque jour avec les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier et ce week-end à la télévision ?
Ils ont regardé France 3 et l'enquête de son commissaire Dupin. Près de 4 900 000 téléspectateurs ont passé leur soirée devant cet épisode intitulé « Les secrets de Brocéliande ». Deuxième succès de suite pour France 3 en prime time. J'y reviens dans quelques instants. TF1 est en deuxième position avec son film « Tous en scène », regardé par près de 4 600 000 téléspectateurs. Et France 2 est sur la troisième marche du podium. Plus de 3 900 000 Français ont regardé le film de Fabrice Éboué « Coexister ».
Et Cyril, quid des audiences de vendredi et de samedi soir?
On commence par vendredi et Koh-Lanta qu'on n'arrête plus. Plus de 7 millions de Français en moyenne ont passé leur vendredi soir devant le jeu de TF1. C'est quasiment 28% de part d'audience. Koh-Lanta est décidément une des marques les plus puissantes de la télé française actuellement. Samedi soir, c'est le téléfilm Meurtre en Corrèze sur France 3 qui s'est classé en tête des audiences et assez largement d'ailleurs. Plus de 6 800 000 téléspectateurs ont regardé cette enquête avec Ariel Mallet. Pour les amateurs de statistiques, il aura donc fallu une rediffusion pour faire vaciller TF1. La chaîne a remporté le match des prime time lors de 19 soirées consécutives. Orpheline de The Voice, dont les émissions en direct ont été décalées à plus tard dans l'année, TF1 rediffusait samedi un concert des Enfoirés de 2017 et France 3 en a profité pour s'imposer assez largement.
Culture Média.
Cyril, on commence maintenant ce journal des médias avec des médias justement qui protestent contre les procédés du gouvernement.
C'est une initiative qui ne passe pas. Je vous en parlais vendredi, le gouvernement a mis en ligne ces derniers jours une page qui répertorie des articles de presse permettant de répondre à de fausses informations sur le coronavirus. On y trouve des articles du Monde, de l'AFP, de Libération, de 20 minutes ou de France Info, des éditeurs choisis parce qu'ils disposent de services dédiés au fact-checking et que ces articles sont en accès libre. Une idée qui a largement énervé les médias français, une trentaine de SDJ et de SDR, ce sont des sociétés de journalistes et de rédacteurs qui existent au sein des rédactions, se sont rassemblés pour signer une tribune intitulée « L'État n'est pas l'arbitre de l'information ». Nous sommes en ligne avec Stéphane Durand-Soufflant, journaliste judiciaire au Figaro, un des signataires de ce texte. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Alors Stéphane, dites-nous pourquoi est-ce qu'il vous a semblé important de protester contre cette page sur le site du gouvernement ?
Bah, écoutez, nous, on est des journalistes, on est indépendants des pouvoirs politiques et de l'État, on fait notre travail et on le publie. Ce qui nous choque, c'est de voir que le gouvernement pioche là-dedans de manière totalement arbitraire et fait son petit tableau d'honneur des bonnes publications, sans demander d'ailleurs la permission des titres en question. Et ce faisant, il laisse entendre que les autres articles ne sont pas fiables, puisqu'il ne donne son imprimature qu'à ceux qu'il a bien voulu choisir. Et cela ne nous paraît pas du tout d'abord respectueux de la liberté et de l'indépendance de la presse. Et en plus, c'est extrêmement malvenu de la part d'un gouvernement dont la communication est, pour employer un euphémisme, extrêmement cafouilleuse.
Stéphane, si je me fais l'avocat du diable, et c'est d'ailleurs ce que disent les équipes de la porte-parole du gouvernement, est-ce qu'on peut pas aussi voir dans cette initiative une simple page internet où le visiteur retrouve des informations de sources fiables, hein, puisque ce sont quand même des journaux que l'on connaît, et sans volonté de la part du gouvernement d'éditorialiser ou d'être l'arbitre de la vérité?
Mais le gouvernement dispose lui-même de sa propre communication, qu'il la fasse, et les médias en rendront compte. Je pense que l'intérêt dans une démocratie, c'est d'avoir des sources multiples, et on choisit. Si on veut la voie gouvernementale, on va sur le site du gouvernement. Si on veut l'analyse de tel ou tel journal, radio, support, si on lit Mediapart, on va lire Mediapart. Si on est un lecteur du Figaro, on lit le Figaro. On n'a pas besoin que le gouvernement fasse un tri, ou alors que le gouvernement fasse des liens sur tous les journaux en disant « renseignez-vous ». Mais là, c'est pas normal de choisir comme ça. Nous, on n'a pas besoin d'un tableau d'honneur d'État. Je veux dire, la force de la presse, c'est d'être indépendante. Là, on rend un bien mauvais service au titre, en laissant penser que certains sont plus mieux en cours que d'autres, pour résumer.
Parfait, merci Stéphane Durand-Souffrant. Je rappelle que vous êtes journaliste judiciaire au Figaro, le Figaro qui est un des signataires de ce texte qui demande au gouvernement de supprimer sa page, qui fait donc polémique.
On le sait, le personnel soignant est en première ligne pour faire face à la crise sanitaire. Et Cyril, vous vouliez nous signaler un documentaire au plus près du quotidien de ceux que la France applaudit tous les soirs à 20h.
C'est un film en caméra embarquée que nous propose France 3 ce soir durant plusieurs semaines. Une infirmière des urgences de la clinique d'Occitanie, située près de Toulouse, a décidé de filmer son quotidien avec sa caméra et le résultat s'appelle À bout de souffle.
En fait, j'avais deux rêves dans ma vie. C'était d'être infirmière urgentiste. Donc chose faite, il y a 8 mois, je valide mon DE, je suis la plus heureuse du monde et en plus, je travaille dans un service d'urgence qui est super avec une équipe de fous. Mon deuxième rêve, c'était d'être athlète professionnelle. Et au mois de mars, boum, je signe un contrat semi-pro. Donc je suis athlète semi-professionnelle et infirmière aux urgences. Double kiff. Entre-temps, le Covid nous tombe dessus, tout tombe à l'eau. Et donc il y a 15 jours, je décide de stopper mon activité sportive et d'enfiler ma blouse blanche à 100%.
Et effectivement, nous sommes à ses côtés 24 heures sur 24 aux urgences, où la caméra est parfois simplement posée dans un coin de la pièce, mais également chez l'infirmière qui s'est isolée de sa famille pour ne prendre évidemment aucun risque sanitaire, ou on l'assume même lorsqu'elle s'entraîne. On l'a entendu à l'instant, le rêve de cette jeune femme, c'était d'être infirmière et athlète, et la voilà, réalisatrice. Nous avons demandé à Vanessa Morales de nous expliquer comment lui était venue cette idée.
Ça a été un avantage pour moi pendant cette période, parce que j'ai pris la caméra comme un confident. En fait, l'idée au départ pour moi, c'était surtout de rendre hommage à mes collègues, parce que moi j'ai la chance quand même d'être athlète à côté, donc j'ai cette double casquette qui me permet d'apprécier à 100% quand je travaille, je me régale entre guillemets, je retrouve les copains, l'ambiance du service, et après je coupe avec le sport. Mes collègues, c'est toute l'année, dans tous les services. C'est vrai que là, on parle essentiellement des urgences et de la réanimation, mais faut savoir que voilà, c'est vraiment tous les services.
Et c'est un bel hommage qu'il aurait rendu à travers ce film, même si bizarre il la programmation. Il ne sera diffusé ce soir à 23h15 que sur France 3 Île-de-France, France 3 Occitanie et France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Mais pas de panique, grâce à la magie des internets, vous pouvez bien sûr le voir où que vous soyez sur France.tv.
Et puis pour terminer ce journal, on parle du retour d'une émission culte.
C'est la musique du tout premier générique de la toute première édition de la Star Academy. C'était en octobre 2001 et il se pourrait bien que le programme fasse son retour l'année prochaine pour fêter ses 20 ans. Le producteur y travaille sans dire quel format il imagine, si ça serait un simple numéro anniversaire pour revivre les meilleurs moments du programme ou si on pourrait assister à une véritable renaissance de l'émission de télé-réalité. TF1 avait diffusé 8 saisons du jeu. En 2008, c'est Mickaël Rea qui avait remporté le télécrochet. 4 ans plus tard, NRJ12 avait tenté de relancer la marque dans un concept un peu différent, mais ce retour n'avait pas été plus loin. Alors qu'en sera-t-il cette fois? Est-ce que TF1 sera de nouveau de cette aventure? En tout cas, d'ici à l'année prochaine, les nostalgiques peuvent déjà se plonger dans les archives. Les anciennes éditions de la Starac ont été mises en ligne sur YouTube, de quoi tenir jusqu'au retour des apprentis vedettes du music hall.
Merci beaucoup, Cyril. la carrière. À demain pour un nouveau journal des médias, Culture Média qui continue évidemment. Dans un instant, notre info média, on va parler d'un art, celui de dire tout et parfois n'importe quoi sur un sujet sur lequel on n'a pas spécialement de compétences. Ça s'appelle l'ultra-crépidarianisme et en ces temps de coronavirus, il est très pratiqué sur les plateaux télé. Pour en parler, on recevra Jean-Marie Charon, sociologue des médias, juste après ça.
Culture Média, Philippe Vandel.
Connaissez-vous l'ultra-crépidarianisme ? C'est l'art de dire tout et parfois n'importe quoi sur un sujet sur lequel on n'a pas spécialement de compétences. Et depuis quelques semaines, les ultra-crépidariens sont nombreux à écumer les plateaux de télé pour commenter et expliquer le coronavirus. Ils sont éditorialistes, hommes politiques, parfois même médecins, mais ils s'expriment en tant qu'experts dans un domaine dans lequel ils n'ont pas cette expertise. Pour en parler, nous sommes avec un expert sociologue des médias. Bonjour Jean-Marie Charon.
Bonjour.
Question basique, merci d'être avec nous. Comment allez-vous? Où êtes-vous confiné?
Eh bien écoutez, en Normandie, à côté de Rouen.
Est-ce que cet art de dire tout et n'importe quoi à la télé, vous le trouvez en hausse ces derniers temps de coronavirus? Ou est-ce qu'on y est plus sensible à cause de la crise? Ou est-ce que ce n'est pas davantage que d'habitude?
Écoutez, je pense que c'est davantage que d'habitude parce qu'il y a quelque chose de particulier qui est la complexité du sujet auquel on a affaire, hein, le Covid-19, c'est-à-dire et une situation dans laquelle on doit parler sur un sujet donc dans lequel la recherche est en train de se faire. C'est-à-dire que par rapport à nos codes habituels, c'est-à-dire pouvoir se référer à un certain nombre de spécialistes ou de grandes catégories qui ne font pas débat, eh bien là, on est obligé de se débrouiller avec un paysage très mouvant, avec des débats, des controverses, y compris entre les chercheurs, y compris les vrais chercheurs et les vrais experts.
Alors je voudrais qu'on entende d'abord, pour situer, le Premier ministre Édouard Philippe, qui s'est lui-même exprimé sur le sujet, c'était mardi dernier à l'Assemblée nationale.
J'ai été frappé, mesdames et messieurs les députés, depuis le début de cette crise, par le nombre de commentateurs ayant une vision parfaitement claire de ce qu'il aurait fallu faire selon eux à chaque instant. La modernité les a souvent fait passer du café du commerce à certains plateaux de télévision. Les courbes d'audience y gagnent ce que la convivialité des bistrots y perd. Mais je ne crois pas que cela grandisse le débat public.
Vous êtes d'accord avec lui?
Bah écoutez, je pense que effectivement on a affaire à un certain nombre de médias qui sont devenus très très importants dans notre paysage aujourd'hui, notamment les médias d'information en continu. Mmh. On a eu aussi ce format des éditions spéciales, hein, cette espèce de cette tendance à avoir des programmes qui se spécialisent sur cette crise et qui vont durer très longtemps, pas forcément à longueur de journée, mais pendant des heures durant. Mmh. Et ça donne effectivement un espace particulier, je dirais, à une catégorie que je resituerai autour de ce que j'appelle moi les éditorialistes et un certain nombre d'animateurs. Alors, pourquoi alors autrement dit, ils sont plutôt omniprésents parce qu'ils sont disponibles, ils savent s'exprimer, ils sont collaborateurs habituels éventuellement de ces antennes. Mmh. Et en même temps, c'est vrai qu'ils sont incompétents. Et surtout, si vous voulez, lorsqu'ils interviennent sur leur domaine, qui est souvent la politique ou un certain nombre de cadres traditionnels, ils savent jusqu'où ils ne doivent pas aller. Oui. Là, en revanche, ils sont dans un domaine qui leur est complètement inconnu et ils ne se rendent pas compte des moments où ils sortent complètement de la route. Et ce qui me paraît très contre-productif, c'est qu'on a une période où, on le dit souvent, les réseaux sociaux sont porteurs de très nombreuses nouvelles, y compris fausses nouvelles. Et donc, il y a quelque chose qui est devenu très crucial dans les médias, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le fact-checking ou la vérification. Ouais. Et là, ces gens-là sont en train, je dirais, de ruiner un peu le travail que font les médias, qui est justement d'essayer de devenir des référents, de plus en plus des référents face à tout ce qui circule par ailleurs, notamment sur les réseaux sociaux.
Et c'est d'autant plus complexe que parfois ces éditorialistes sont dans un média qui lui-même pratique le fact-checking. Alors quand on pense à cet art de parler de sujets qu'on ne maîtrise pas ou pas trop, on pense aux éditorialistes. Et parmi ceux qui se font le plus épingler sur les réseaux sociaux, il y a Christophe Barbier, éditorialiste sur BFM TV. On va entendre un extrait, c'était le 25 février. Je rappelle qu'à cette époque, le 25 février, beaucoup prenaient le coronavirus pour une simple grippe.
Tout risque sanitaire sous-estimé, c'est un problème. Rappelez-vous la canicule de 2003. Après, l'autre risque, c'est de plonger dans la psychose d'une population alors que la contagion n'est pas si terrible ou que ceux qui attrapent la maladie ne meurent pas tant que ça. Mais vous voyez, dire cela, c'est déjà prendre un risque politique. Donc, il faut faire attention et peser le pour et le contre. À un moment donné, L'arbitrage va être pour ce gouvernement de peser le pour et le contre entre l'économique et le sanitaire. Jusqu'où, pour protéger la population, on prend le risque d'une crise économique. On peut interdire tous les touristes dans notre pays, on peut interdire des importations d'objets. Mais à un moment donné, pour sauver quelques vies de personnes très âgées, on va mettre au chômage des milliers de gens.
Mais la vie n'a pas de prix.
Eh ben voilà, la vie n'a pas de prix, mais elle a un coût.
Alors je vais me faire son avocat, est-ce que c'est pas sa fonction d'éditorialiste de donner son avis sur tout, même sur des sujets qu'il maîtrise moins bien ?
Si vous voulez, le problème des éditorialistes, c'est qu'ils sont tout à fait préparés à traiter d'ailleurs les sujets dont il a beaucoup parlé là à l'antenne, c'est-à-dire le cadre politique, les questions de décision, mais plutôt politique, c'est-à-dire que c'est vraiment leur domaine de référence traditionnel. Ouais. Là, effectivement, ils sont obligés d'en sortir complètement. Et là, qu'est-ce qui prend la place ? Ben, c'est une forme de bon sens. Ce sont leurs a priori personnels, sa vision des personnes âgées, par exemple, ouais. Là, en l'occurrence. Et si vous voulez, là, il est complètement, il est en roue libre et il devient complètement contre-productif, d'autant que, si vous voulez, la fonction des médias, elle a changé. Je veux dire, quand, ouais. Quand on est face au débat public traditionnel, au débat 10D, etc., chacun d'entre nous a des repères. Bon, là, je suis pas d'accord avec lui, etc. Mais là, dans les médias sont devenus une ressource pour les gens, qui ouais. chacun, en plus, sont confinés chez eux, qui n'ont pas beaucoup de possibilités d'échanger avec leurs proches, etc. Et donc, il y a une utilité des médias. Ouais. Et lorsque les médias se mettent à se tromper, à ne plus être fiables, eh bien, ils ont souvent, ces mêmes personnes ont le sentiment d'être mises en danger. Et là, vraiment, au sens propre, moi, j'avais souvent...
Attendez, je voulais faire entendre Jean-Marie Charron, parce que le temps tourne, il y a des éditorialistes qui sont là pour donner leur avis. Oui. Surtout, il y a aussi des présentateurs qui, parfois, sortent de leur rôle. Un exemple, Pascal Pro, ça a été noté, présentateur de l'émission L'heure des pros sur CNews. Et c'était, il y a 3 semaines, c'était le 16 avril.
Quand j'entends les professeurs oui. qui ne vont pas aider Emmanuel Macron, hein, le 11 mai, parce que les profs, ils ne vont pas l'aider. Dire qu'ils ne veulent pas rentrer, parce que la sécurité, parce que la sanitaire, parce que c'est, etc. Il y aura toujours des bonnes raisons pour ne pas rentrer. Alors je vais me faire, si pas des amis en disant ça, mais globalement, les profs, il y a un moment, il faut y aller. Il faut un moment, il faut y aller le 11 mai. Les enfants, ils sont asymptomatiques et ils ne transmettent peut-être pas le virus. Donc il faut y aller. Et c'est comme les postiers, disons-le, les postiers qui sont à la poste, qui sont arrêtés, il y a quelque chose qui... Mais oui, mais c'est... C'est la fonction publique.
Au départ, il n'avait pas de...
Pardonnez-moi de le dire comme ça. C'est la fonction publique.
Très rapidement, Jean-Marie Charron, dans quelle mesure une prise de position personnelle comme celle-ci n'accentue-t-elle pas la défiance envers les médias ?
Ah ben, tout à fait, tout à fait. Et là, il faut s'interroger sur le pourquoi ce genre de propos va être à ce point-là mis en avant par les médias. Et je pense que là, ça nous renvoie à une autre question qui est l'évolution des rédactions et peut-être la baisse, si vous voulez, d'un profil qu'on connaissait bien jadis, qui était le spécialiste notamment dans les domaines scientifiques,
alors...
et qui là, aujourd'hui... est devenu rare.
Alors, puisque vous en parlez, ça sera la deuxième partie de ce passionnant entretien, puisque parfois, même les spécialistes eux-mêmes se mettent à déraper, justement, quand ils sortent dans leur domaine strict de compétences. Ça sera juste après ça. On marque une pause et on vous retrouve, Jean-Marie Charron.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Avec Jean-Marie Charron, sociologue des médias, nous parlons de ce phénomène qui apparaît de plus en plus dans les médias en ces temps de crise, l'ultra-crépidarianisme. Ce sont tous ces gens qui disent tout et parfois n'importe quoi sur un sujet sur lequel ils n'ont pas spécialement de compétences. On a parlé des éditorialistes, on a parlé des présentateurs télé, puisque les chaînes d'infos sont très, très regardées et il faut nourrir la bête. Il y a des heures et des heures de direct. Mais il y a également parfois des grands spécialistes, même parfois des médecins, qui ne sont pas d'accord entre eux. Je vais donner un exemple, c'est le virologue français Luc Montagnier, c'est pas n'importe qui. Il est prix Nobel de médecine 2008 pour sa découverte du virus du sida. Et il était le 17 avril sur CNews, dans l'émission L'heure des pros de Pascal Pro. Il expliquait que le virus n'était pas d'origine animale, mais il sortait d'un laboratoire de Wuhan. Je rappelle, c'est le prix Nobel de médecine qui parle.
Alors, nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus.
C'est-à-dire ?
Eh bien, qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle, on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida.
Mais quand vous dites « on a ajouté », qui a ajouté ?
Ah, moi, je ne sais pas.
Et c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire ?
Non, ce n'est pas naturel. C'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux. on peut dire, d'horloger, on peut dire, au niveau des séquences.
Mais dans quel
Alors,
but
dans quel but, ça, ça n'est pas clair.
Il est spécialiste du Zika, je le précise, pas du coronavirus. On a également entendu Philippe Douste-Blazy s'exprimer. Il est homme politique, mais il est aussi ancien cardiologue et ancien ministre de la Santé. Il était l'invité de BFM TV le 24 février.
Il faut aussi savoir qu'il y a de bonnes nouvelles. Ça reste quand même un virus respiratoire. Ce virus respiratoire saisonnier, on les connaît. On connaît les coronavirus, d'ailleurs, qui ne sont pas dangereux. On connaît la grippe. Et on sait qu'au printemps, en général, ils disparaissent.
Donc ça veut dire que le coronavirus va disparaître au printemps, non, au mois d'avril, au mois de mai ?
En tout cas, le coronavirus, le SRAS, celui de 2002-2003 qui était en Chine, au printemps, il a disparu. Donc, mais il faut vraiment que les gens qui nous regardent ne rentrent pas dans une panique.
Il faut vraiment que les gens qui nous regardent ne rentrent pas dans une panique. Le virus aura disparu au printemps. Philippe Douste-Blazy, médecin, c'est peu dire qu'il s'est trompé. Et le prix Nobel de médecine qui défend la thèse du virus fabriqué en laboratoire. Qu'est-ce que cela vous inspire, Jean-Marie Charon ?
Ça m'inspire qu'on a une évolution des rédactions ces dernières décennies où, si vous voulez, on a de plus en plus recherché des journalistes des journalistes généralistes capables de traiter de nombreux sujets. Et on a eu tendance, pour des raisons parfois d'arbitrage économique ou d'autres, à diminuer le nombre de ce qu'on appelait les spécialistes, et notamment les spécialistes santé ou les spécialistes sciences. Ça sert à quoi un spécialiste ? Et ben d'abord, il a du temps, davantage de temps, et donc à voir quelle est la carte, si vous voulez, d'un domaine de recherche. Quel est le panorama et comment on fait ? Eh bien, on regarde quels sont dans les publications scientifiques, ceux qui font référence ou ceux qui vont être davantage mis en cause. On va dans les colloques, on regarde là encore qui est cité, qui ne l'est pas. Ouais. Et là, ça permet, sur un sujet déterminé, de dire celui-là est pertinent, celui-là ne l'est pas. Si vous voulez, dans la recherche, il y a deux problèmes. Il y a des gens, effectivement, qui sortent de leur domaine de compétences parce qu'ils sentent que l'actualité les y pousse. C'est peut-être ce qui se passe avec le professeur Montagnier. Et puis, il y a des gens, à l'inverse, qui sont très compétents et qui n'ont pas envie de s'exprimer dans les médias. Donc, vous voyez, il y a toujours cette tension. Et là, il faut que le journaliste spécialisé, lorsqu'il joue son rôle, il puisse dire notamment à sa hiérarchie, non, celui-là, tu ne peux pas l'inviter. Il est peut-être sur tous les plateaux, mais il est en train de nous embarquer dans une affaire dans laquelle on va complètement se décrédibiliser.
On est bien d'accord. Merci beaucoup, Jean-Marie Charon. Je rappelle que vous êtes sociologue des médias. Je vais juste te dire que le terme ultra-crépidarianisme apparaît pour la première fois en 1819. Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais il est cette fois exacerbé. Culture Média continue après le rappel des titres de 10h. Martin Veil pour son documentaire demain sur TMC, absolument passionnant. Covid-19, la fin de l'American Dream, avec l'accent. Le journal de la culture d'Hélène Manarino et puis la réalisatrice Marjane Satrapi pour la sortie en VOD de son film Radioactive, biopic sur Marie Curie, juste après ça. Le flash Sophie Tussaud.
La fronde de plus de 300 maires d'Île-de-France, dont Anne Hidalgo, la maire de Paris, dénonce un déconfinement à marche forcée. Ces 329 maires signent une tribune pour faire savoir à Emmanuel Macron qu'ils ne rouvriront pas les écoles le 11 mai et demandent que la rentrée soit repoussée à une date ultérieure. Édouard Philippe va soumettre aujourd'hui au Sénat son plan national de déconfinement à partir de 14h30, une présentation suivie d'un débat et d'un vote. Plus tard dans la soirée, le Sénat se penchera également sur le projet de loi qui proroge l'état d'urgence sanitaire de 2 mois jusqu'au 24 juillet. Concernant ce texte, des détails ont été apportés ce week-end, notamment concernant le placement en quarantaine des voyageurs. L'Élysée a précisé hier soir qu'elle ne concernerait pas les personnes en provenance de l'Union européenne, de l'espace Schengen ou du Royaume-Uni. Depuis ce matin, les masques à usage unique sont en vente dans les supermarchés. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, dénonce une mauvaise polémique sur la grande distribution, accusée de constituer des stocks cachés alors que le personnel soignant fait face à une pénurie. Air France recevra bien une aide de 7 milliards d'euros de l'État pour l'aider à faire face à la crise actuelle. La Commission européenne donne son feu vert à la France. Le bilan en France continue de diminuer avec 135 décès recensés sur les dernières 24 heures. 24 895 victimes au total. Le nombre de patients en réanimation continue de diminuer. Le virus circule moins. 3 départements, le Gers, la Loire-Atlantique et la Mayenne sont passés d'orange à vert. Chez nos voisins européens, le déconfinement s'accélère également. Les parcs et les marchés en plein air sont de nouveau ouverts depuis ce matin en Italie. La population est également de nouveau autorisée à voir sa famille à condition de respecter la distanciation sociale. En Allemagne, ce sont les écoles qui rouvrent dans plusieurs Länder et le Portugal rouvre ses petits commerces de rue et les salons de coiffure. Donald Trump promet un vaccin contre le coronavirus avant la fin de l'année lors d'une émission en prime time hier soir qui a marqué son retour en campagne à 6 mois de la présidentielle. Le président américain s'est montré très optimiste et a prédit une année 2021 incroyable sur le plan économique. À 10h02 sur Europe 1, c'est l'heure de répondre aux questions que vous vous posez sur le coronavirus et on retrouve Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1. Bonjour Mélanie.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Hélène, 42 ans dans le Loiret, voudrait savoir s'il est utile de se munir d'un diffuseur d'huiles essentielles. Son pharmacien lui conseille et elle pense que ça doit purifier l'air des virus ambiants.
Alors Hélène, vous faites évidemment comme bon vous semble, hein, mais concernant les sprays et diffuseurs d'huile essentielle, sachez quand même que les autorités sanitaires viennent juste de rendre public il y a quelques jours les résultats d'une étude de toxicovigilance sur ces produits. Alors ce qui ressort, c'est d'abord que les diffuseurs d'huile essentielle sont loin d'être anodins. Cette étude note des effets indésirables en conditions normales d'utilisation, notamment des cas d'irritation assez importantes au niveau des yeux, de la gorge, du nez, mais aussi des problèmes de toux et des difficultés respiratoires chez plusieurs utilisateurs. Alors pour éviter ça, il faut toujours bien aérer son intérieur lorsqu'on utilise ce type de spray dans des espaces clos. Enfin, sur l'aspect antivirus, assainissant de ces produits, la l'ANSES est catégorique. Les huiles essentielles ne constituent pas un moyen de lutte contre le coronavirus, ni en prévention, ni en curatif. Aucune étude sérieuse ne l'a démontré. Donc, ce sont uniquement les promesses des fabricants de ces produits.
Merci Mélanie Gomez, que l'on retrouvera toute la journée pour répondre à vos questions. 10h04 et on vous retrouve Philippe Vandel.
Merci beaucoup Sophie Tussaud et merci à Mélanie Gomez. Toutes les deux, on vous retrouve tout à l'heure à 11h.
Europe 1. Écoutez le monde changer. Europe 1 Culture Média.
Merci
Philippe Vandel.
La dame voulait dire mon nom. Merci de nous retrouver. Merci madame si vous nous rejoignez seulement. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h avec Martin Veil pour son documentaire Covid-19. La fin de l'American Dream sera demain sur TMC. Il y aura le journal de la culture d'Hélène Manarino. Puis nous recevrons la réalisatrice et dans quelques instants Marjane Satrapi. Nos indispensables, Laurent Mariotte va nous proposer des idées de souffler. Ça se mange et de la musique. Angèle Châtelier va nous faire découvrir un groupe australien et ses grands espaces pas confinés.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Martin Veil.
Bonjour Philippe.
Vous êtes journaliste et reporter, vous faites partie de la bande de Quotidien et depuis la saison dernière, vous avez votre émission à vous, des grands reportages, des enquêtes sur TMC. C'est produit par Bangoumi, la société de production de Yann Barthès et de son complice Laurent Bon. Après les gourous, la cocaïne, les complotistes, le Brésil de Bolsonaro et les ravages du tourisme de masse, vous vous penchez sur le rêve américain. Vous avez commencé à tourner en février. Puis est apparue la crise du coronavirus. Parfois, on le sait, un événement fait tomber à l'eau un sujet. Par exemple, si vous faites un sujet sur la Ligue des Champions, ben, il ne se passe plus rien. Là, non, pas du tout. Qu'est-ce que cette crise, Martin Veil, dit du rêve américain ?
Bah, en fait, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que nous, on se baladait aux États-Unis justement avant la crise pour questionner les forces et les faiblesses du rêve américain. On est rentré depuis la crise a frappé le monde entier et on s'est rendu compte qu'en fait, les témoignages qu'on avait récoltés prenaient encore plus de force. Donc, on a recontacté les personnes qu'on avait tournées pour savoir s'ils avaient changé leur vision du rêve américain ou non. Je pense que ce que cette crise dit du rêve américain, c'est qu'elle en montre un petit peu les limites. On est dans la première économie mondiale. Or, c'est un pays qui est ravagé par énormément d'inégalités. Et ces inégalités que nous, on avait pu constater sur place il y a quelques mois, sont renforcées par cette crise. Donc je pense que la question se pose effectivement plus que jamais.
25 millions d'Américains avec cette crise ont perdu leur travail. Et aux États-Unis, on le sait, les allocations chômage sont souvent inexistantes. Vous montrez des images saisissantes, des milliers de familles qui se précipitent dans les distributions de nourriture. Mais quand je dis des milliers, on voit des files d'attente. Vous dites 10 000 voitures à une banque alimentaire. Ça paraît complètement invraisemblable. Et ça ne touche pas que les pauvres. Il y a également des classes moyennes.
Non, exactement, ça touche tout le monde et c'est vrai que les images sont frappantes. Il y a une autre image aussi, c'est celle du maire de New York qui se dit mais comment est-ce que c'est possible qu'à New York on ait autant de gens dans les food banks, devant les banques alimentaires. Et c'est vrai que c'est des images qu'on n'a pas l'habitude de voir parce que quand on pense aux États-Unis, on est souvent un petit peu émerveillé par la puissance de cette économie, de cette société et on en voit souvent pas suffisamment les failles. Et je pense que cette crise, justement, elle nous montre toutes les failles de ce système-là.
Vous avez commencé votre enquête en Arizona avec le champion de rodéo, il s'appelle Jesse Ride. Il peut gagner 100 000 dollars en remportant une épreuve, ça dure 8 secondes, enfin c'est comme le 100 mètres, hein. Ce qui compte, c'est pas les secondes. Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a d'emblématique?
En fait, cette séquence, c'est surtout une forme de métaphore un petit peu du rêve américain. C'est-à-dire que la réussite là-bas est très souvent fulgurante, mais la chute particulièrement brutale. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on utilise un petit peu cette métaphore du rodéo. Et la vie de quelqu'un qui fait du rodéo, c'est de parcourir les états concours après concours pour espérer empocher quelques billets.
Ouais.
Et si jamais on est premier, effectivement, on peut gagner beaucoup d'argent. Quand on n'est pas premier, en revanche, ça devient vite beaucoup plus dur.
Ouais, et vous voulez dire que même on peut en avoir plein le dos, et je suis poli. Vous étonnez de sa philosophie. Il dit, ce que tu fais dans ton travail, ça paye. Mais je me dis, mais c'est pas la philosophie de Martin Veil. Moi, je vous vois comme un journaliste très, très, très travailleur. Et ce que vous faites, ça paye.
Oui, mais je pense que c'est pas en fait ça. Cette idée, si vous voulez, qu'en bossant, on peut accomplir de grandes choses, je pense que c'est quelque chose que tout le monde partage.
Ouais.
Ce qui est intéressant dans le système américain, c'est que c'est pas seulement ça. C'est l'idée que, de manière individuelle, je vais pouvoir réussir quoi qu'il se passe autour de moi. Donc, c'est-à-dire, on estime qu'on court tous dans la même course parce que les règles sont les mêmes pour tout le monde.
Mmh.
Or, le système américain et d'autres systèmes dans le monde, on peut parler de la méritocratie à la française aussi, on fait courir un sprinter et un unijambiste. On leur dit, les conditions sont exactement les mêmes. Donc, au final, si l'unijambiste n'y arrive pas, bah, c'est simplement qu'il n'a pas été aussi bon.
Incroyable transition, la preuve que non, puisque vous prenez un témoin, il s'appelle Zaya Younan. Il est milliardaire, il a fait fortune dans l'immobilier, il est immigré italien. Il est arrivé aux États-Unis à 13 ans avec ses parents, et en plus, vous parlez de unijambiste, il boite parce qu'il était atteint par la polio. Il arrive en Amérique à l'âge de 13 ans avec ses parents, je l'ai dit, ils avaient 2000 euros pour 7 personnes, les deux parents, les 5 enfants. Là maintenant, il vit dans une immense villa à Malibu, à côté de celle de Britney Spears. Il a beaucoup bossé en classe. Il a un simple diplôme d'ingénieur. À 19 ans, racontez-vous, il est engagé chez General Motors. Et à l'âge de 23 ans, il a été l'un des inventeurs de l'airbag. Il gagne son premier million. Je me suis dit, mais où est le problème?
Mais il n'y a absolument aucun problème. Zaya Younan, effectivement, c'est vraiment l'image du rêve américain. C'est quelqu'un qui est arrivé dans le pays de parents immigrés, qui n'avait pas un sou en poche et qui s'est fait tout seul. Et donc c'est quelqu'un, effectivement, qui ne comprend pas que d'autres n'y arrivent pas. Si lui a réussi, pourquoi est-ce que d'autres n'y arriveraient pas? On reproche évidemment absolument rien à Zaya Younan.
Oui, parce que justement, il n'a pas pu être aidé ni par son physique, ni par ses parents.
Non, tout à fait. Mais on ne dit pas qu'il n'y a pas des success stories et qu'elles sont incroyables et qu'elles ne font pas rêver le monde entier. Au contraire, ce qu'on explique, c'est que pour une histoire comme celle de Zaya Younan, il y en a 300 autres de personnes qui n'ont pas réussi. C'est ça, en fait, que ça interroge. Est-ce que parce qu'on est peut-être moins performant dans ce monde-là, ça veut dire que on ne devrait pas avoir des vies satisfaisantes?
Elle est là,
en fait, la vraie question, je pense, de ce reportage.
Et c'est encore plus complexe que ça. Il y a une séquence très, très forte. Zaya Younan est à table avec sa femme et ses enfants, ils déjeunent en terrasse d'un luxe inouï, c'est somptueux, splendide. Et là, vous lui posez une question que je n'avais jamais vu poser, comme ça, en public, surtout devant les personnes concernées.
J'ai une question un peu mal élevée, mais qui va hériter de tout ça?
Mes enfants, ils n'auront rien du tout. Chaque dollar que nous avons, quand ma femme et moi mourrons, ira aux pauvres à travers le monde, pour la bonne cause.
For good causes. Des ONG.
Oui, des associations.
Vous allez tout donner à des ONG.
Tout pour les pauvres. Pas un seul euro ou dollar ne sera donné à mes enfants.
C'est comme ça qu'on a été élevés. On ne prend rien pour acquis. On doit travailler pour vivre. Donc, c'est normal.
C'est son argent.
J'ai tellement d'amis dont les enfants se croient tout permis. Certains attendent que les parents meurent pour pouvoir récupérer l'argent, pas mes enfants.
Rien pour les enfants, ça change de la mentalité aristocratique et de la duplication des élites.
Tout à fait, tout à fait. Mais c'est une philosophie de vie, si vous voulez, le rêve américain. Nous, on ne dit pas qu'il faut absolument tout jeter, loin de là. Et au contraire, Zaya Younan, effectivement, c'est une histoire fulgurante de success story. Le reportage vise plutôt à s'interroger, en fait. Pourquoi est-ce qu'on privilégie une économie et un modèle dans lequel, certes, il va y avoir des Zaya Younan, mais dans lequel on va avoir certains quartiers qui sont complètement laissés à l'abandon? Et ces gens-là à qui on dit, mais attendez, si quelqu'un comme Zaya Younan, par exemple, a réussi, et que vous ne réussissez pas, c'est de votre faute. Et ça, c'est faux. Et c'est ce qu'on essaie d'expliquer.
En une seconde, question subsidiaire, il nous a fait boire un château Pétrus à 3000 dollars, millésime 99, moi j'en ai jamais bu. C'est comment? C'était magique ou vous êtes passé à côté?
C'est bon, je vous avoue qu'on a testé poliment parce qu'on était en train de travailler.
Bon, super. Jamais d'alcool, jamais d'excès en tout cas. Vous restez avec nous, Martin Veil. On a encore plein de questions à vous poser au sujet du rêve américain et aussi d'un précédent reportage que vous avez fait. À tout de suite. En compagnie de Martin Veil, il signe une enquête inédite Covid-19, la fin de l'American Dream. Ça sera demain mardi sur TMC à 21h15. Il y a des portraits absolument saisissants d'Américains que vous êtes allés voir sur place et que vous avez revus. On va en parler, notamment ce milliardaire d'origine iranienne, Zaya Younan, qui a fait fortune dans l'immobilier. Il connaît un peu Donald Trump, normal, c'est le même milieu. Ils ont déjà travaillé ensemble dans l'immobilier. On le compare souvent à lui, mais selon lui, il vous explique qu'il y a une différence essentielle entre les deux hommes. Il vous raconte.
Il y a des points communs, c'est vrai. Mais moi, je suis parti de rien. Alors que Trump vient d'un milieu très aisé. Ses parents étaient très riches. Par ailleurs, Trump a connu beaucoup de faillites. Dieu merci, pas nous. Donc, on n'est pas vraiment dans la même catégorie.
Vous le connaissez personnellement ?
Oui, je le connais. Un jour, on a acheté une partie du prêt de sa propriété. Il y a eu une transaction et nous étions ses prêteurs.
Et vous avez prêté de l'argent à Donald Trump ?
Oui.
Vous avez remboursé ?
Oui, bien sûr.
Ambiance Booba contre Caris.
Booba et Caris, deux rappeurs qui se sont battus dans un aéroport. Et je me suis dit, c'est pas vraiment le genre de référence qu'on retrouve dans un grand reportage. Votre cible, et là, je fais l'interview média, c'est les moins de 25 ans ?
Oui et non, les moins de 25 ans ou autre, là, effectivement, c'est une blague, parce que la façon qu'il a, si vous voulez, de se comparer à Donald Trump, c'est drôle. On a un peu l'impression, effectivement, d'un clash entre milliardaires. Il explique que oui, il comprend la comparaison, mais qu'en gros, ils viennent pas du même endroit et qu'ils n'ont pas réussi de la même manière.
Booba Caris,
un gentil tacle.
À propos d'ados, vous montrez des adolescents qui passent leur week-end à faire des stages dont j'ignorais l'existence racontée.
Oui, on appelle ça des stages de pauvreté. C'est vrai que ça nous a assez frappé. On parle en fait souvent de ces deux Amériques qui se regardent sans trop se comprendre. Et là, c'est une mission évangélique qui propose ça. Et donc, c'est des stages dans lesquels les jeunes se mettent dans la peau de SDF avant ensuite d'aller rencontrer des enfants issus des quartiers. Mmh. Et c'est vrai que cette séquence nous a interpellés parce que elle montre un petit peu toute la folie de la société américaine où on se rend compte qu'il y a des problèmes, mais on y apporte des solutions qui, pour nous, peuvent être un petit peu choquante, parce que pour ces étudiants, ça se résume globalement à passer une nuit dehors, puis ensuite à aller voir des gamins de quartier jouer avec eux, et certains ont l'impression que ça va parfaitement transformer leur vie. Et en même temps, on peut que saluer l'idée d'essayer de rapprocher ces deux Amériques qui se regardent sans se comprendre. Donc c'est vrai que c'est une séquence assez étonnante.
Vous dites que ce qui sépare les Américains entre eux dans l'American Dream, c'est l'accès aux soins. On est dans le pays le plus riche du monde, mais une personne sur 10 n'a pas d'assurance santé. Vous avez même trouvé des dentistes qui soignaient gratuitement des sans-abri, des gens qui n'étaient pas assurés, qui eux-mêmes se sont retrouvés sans couverture santé, quelque chose de totalement impensable en France. Et je vais le dire, ce qu'il y a de formidable dans votre sujet, c'est que après votre reportage là-bas sur place, vous avez recontacté tous ces gens, et par exemple cette femme dentiste.
Oui, tout à fait, qui est assistante dentaire, Terry. On avait assisté, nous, il y a quelques mois, à une séquence, donc c'est bien avant le Covid, un hangar gigantesque dans lequel, effectivement, à la chaîne, des centaines et des centaines de patients viennent se faire soigner gratuitement les dents. Et alors, ce ne sont justement pas que des SDF, très très loin de là. Ce sont des gens issus de classe moyenne, comme vous, comme beaucoup de gens, et qui n'ont juste pas les moyens de se soigner, alors qu'ils ont un boulot, et qui, du coup, vont dans ces cliniques. Mmh. Cette assistante dentaire, Terry, donc qui nous expliquait toutes les failles qu'on pouvait trouver dans le système américain à l'époque, on l'a recontactée, elle-même venait à peine d'être embauchée, elle ne sait pas du coup si elle va avoir un boulot, et surtout elle a perdu son assurance santé. Donc on a une assistante dentaire, on a une soignante qui n'a pas en ce moment d'assurance santé en pleine crise du Covid aux États-Unis. Et c'est vrai que ça fait vraiment réfléchir.
Vous êtes allé aussi rencontrer les Twin Hawkers. Qui sont-ils ? C'est quoi Twin Hawks ?
Twin Hawks, c'est une communauté qui a été créée il y a plusieurs décennies maintenant. Et donc, ce sont des gens qui vivent en autonomie, en autarcie, et qui justement ont décidé de tourner le dos au rêve américain. Ouais. Donc, tout va dans un pot commun. Les gens n'ont pas de salaire. Il faut donner 42 heures de travail à la communauté, et en échange, on est nourri, logé. Et ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est que justement, ils nous expliquent que leur rêve à eux, c'est pas un rêve matérialiste, c'est pas un rêve individualiste, que c'est pas comme ça qu'ils voient la société. Et quand on tournait cette séquence, on l'a trouvée intéressante à beaucoup d'égards, sur ce qu'elle disait du rêve américain et de ceux qui s'en détournent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la crise du Covid-19, quand on revoit à nouveau les images qu'on a tournées à l'époque, on se rend compte que c'est des gens qui font eux-mêmes leur pain, c'est des gens qui donnent des cours à leurs enfants, c'est des gens qui vivent entre eux. C'est-à-dire que leur vie habituelle de gens qui vivent en communauté ressemble étonnamment à notre vie actuelle de confinés.
Ouais, alors je précise qu'ils ne prônent pas le retour à la lampe à huile, ce n'est pas des illuminés. Ils ont Internet, c'est moderne, ils ont une Xbox. Vous dites qu'ils sont 100 000 à vivre de manière un petit peu alternative, chiffre qui a doublé en 15 ans. Vous parlez de l'éducation, quelque chose m'a frappé. Les enfants ne vont pas à l'école, ce sont les parents qui font la classe. Mais c'est justement la critique qui est faite aux inégalités sociales en matière d'éducation. Dans certains milieux défavorisés, les parents sont justement incapables d'enseigner ne serait-ce que les rudiments à leurs enfants. On l'a bien vu avec le confinement, il faut déjà être soi-même éduqué et cultivé. Et là, c'est la limite du genre qu'on voit.
Oui, bien sûr, c'est pas un modèle qui est forcément amené à s'étendre. Ça montre juste qu'en fait, il y a d'autres façons de vivre et il y a d'autres idéaux vers lesquels on peut tendre. Ouais. On n'est pas du tout en train de dire que cette vie en communauté conviendra à tout le monde. On explique juste que c'est une alternative et c'est une alternative, je pense, qui interpelle particulièrement aujourd'hui, depuis que la crise a frappé.
Exactement. Merci beaucoup, Martin Veil. Je rappelle une enquête inédite, Covid-19, la fin de l'American Dream. Ce sera demain soir sur TMC à 21h15. Merci à vous.
Merci beaucoup.
On va retrouver Hélène Manarino et son journal de la culture, mais d'abord...